Hello, everybody. Welcome to this episode, post-game episode of The Athletic Support. I am Marc-Antoine Godin with Arpin Basu. Arpin, so tonight there's no YouTube, but for our loyal listeners on Spotify and Apple and The Athletic and whatnot, we're back to a more regular version of The Athletic Support. And let me start you with this, Arpin. General Manager Marc Bergevin often says that anything can happen in the playoffs, but sometimes nothing happens. And that's clearly what's going on here.
Yeah. I mean, and sometimes the same thing happens over and over and over again. No matter who's coaching the team, no matter who's playing on the team, just this total inability to produce offensively in the playoffs. You know, I mean, it's, you think of Carey Price's career, how many different people has he played with? How many different people have been like the offensive leaders of the team? You had Max Pacioretty come and go, PK Subban came and went.
Yeah.
There's all these people have come and gone over the course of his career, and he's never able to have a team in front of him that's able to score goals at any sort of consistent rate. And tonight, you know, in what was not a must win because it's not an elimination game, that will now happen on Thursday, which will be a must win, but still needed a certain level of desperation, a certain level, you would think, a certain level of energy, and a team that has some offensively talented players on it, but are they an offensively talented team in the sense that they play offensively well together?
No.
It's hard to say that they are. You can't say that at this point. And so,
well, they've been out of sync the majority of the season. So it's,
yeah, you know, but there were reasons for that. Like there were ways, you know, I mean, I think in the first half of the season, they were better. And then, you know, post COVID, they weren't. And then you could, or post their COVID, I shouldn't say post COVID in general, but post their one case of COVID and the break that ensued and the schedule after that, like there were all sorts, they're always, you know, you don't want to call them excuses because I think there were valid reasons, but now they're out of them all. They had like a week-long training camp to get ready for this. They're basically healthy, you know, with the exception of Jonathan Drouin, who they miss, but really they should be able to get past that. All the excuses have been removed for the players, for the coaches, for the GM, everything. They had everything set up for them to come in here and be the best version of themselves. And if this is the best version of themselves, then a lot more big picture questions need to be asked about this team. And they will be, assuming this plays out the way it looks like it's going to play out, which, you know, which would be the Canadiens losing eventually, if not as soon as Thursday night. And those big picture questions can really come to the focus at that point.
Right. But listen, I'm not going to start that postmortem just yet, but I'm already picturing next season where the Canadiens are back in the Atlantic Division with Tampa, Florida, Boston, an up-and-coming Senators team. Those Toronto Maple Leafs, geez, it's not going to be a piece of cake for them.
Well, no, and not, yeah, exactly. It's this was the opportunity, and it still is. Listen, they're not eliminated. It's not as if we've never seen a team come back from 3-1 down before. It's possible. These are the Maple Leafs, after all. I mean, they are known for doing some wacky things in the postseason. But the way these games have gone, there's, you know, especially tonight, in the sense that, you know, they get out of that first period 0-0. They had those power plays, that one at the end, and you just had the feeling like they better get a goal going into that second period because you know they're giving up at least one in the second period, the way the second periods have gone in this series. And then they give up more than one. And basically the game's over at that point. So, you know, and I think it's fair to question, like, why is it that this team has lost every second period in the series? And why is it that it's something the coaching staff addressed, yet nothing was done to prevent that or nothing? You know, I mean, it's
yeah, because we heard it about at the end of the last game, all those explanations regarding the long change, regarding the team being stuck in their own end, not being able to, you know, to manage the puck properly, just in order to get out of the zone and release some of that pressure. So the problems seem to be correctly identified. But, I mean, we're talking about yesterday night. So, two games in two nights. There were... If the diagnosis had been done, the cure or the remedy was not in a span of 24 hours.
No, and there were no answers after the fact either. You know, I mean, listen, it was painful to watch this team try to get from their own end to the offensive end by stringing together two or three passes, which at the NHL level should be pretty basic. It's really not asking for much to see an NHL defenseman get the puck in his own end and send it up to an NHL forward who, on his tape. Then that NHL forward skates with it and puts it to another NHL forward so that they're entering the offensive zone with some speed. They're pushing the Maple Leafs back a bit as they enter, and that creates space for either the second wave to come in, or that creates offense. That's how offense gets created in the NHL, generally speaking. The Leafs are really good at creating cycle chances. The Canadiens are not that great at it. They need to do it this way. And when your game is predicated on transition and you're not able to pass the puck to each other, which is exactly what happened tonight, and has happened for long stretches throughout this series, well, that says something. You know, that's really, it's you could say it's execution, you could say, but it's hard not to get the sense, especially tonight, that the guys on the ice don't know where all their teammates are at all times. It's not a team that plays, you know, that could play blindfolded, which at this time of year, you kind of should be able to do that. There should be a certain flow to your game, and there's no flow to their game offensively at all.
Well, that's a scary thought, because, I mean, you know, I understand there's been so many line changes that you could understand that there some guys might be out of sync, but even just duos, you know, you would think that even a shortened season, it's still 56 games, this team would have managed to, would have had enough time to create some duos, identify some, and build on that. We thought at the beginning of the season that Suzuki and Drouin would be a thing. It quickly flamed out. You know, Toffoli and Kotkaniemi had some success early on. That didn't last. The whole Dano line, which was brought back together tonight because that's their, it's pretty much their only way out at this point. Exactly. It hasn't been a stellar performance on their end, on their side either. So you have nothing that you can really build on. And Dominique Ducharme has said, well, we're looking for consistency from our players. That's fair enough. That's understandable. But has there been consistency from the coach in his decisions and in the way that he deploys his teams? I'm not so sure about that. So it's pretty difficult and pretty optimistic to just leave it to the Maple Leafs to falter and trip on their own. Trip on their own. I don't know what's the expression in English, but anyway. I mean, from the Canadiens' end, they have to find a way to understand, to know each other better. It's weird because they don't know their own team enough. They know what they want to do, but they don't show that it's become second nature at any point for them this season.
No, and you know, here's the thing: like, they're facing a Maple Leafs team. You know, John Tavares goes out in game one with a horrific injury, and no one wants that. But, you know, from a pure hockey standpoint, that should be an advantage for the Canadiens. Nick Foligno has not played in a couple of games, who replaced John Tavares as the second line center. Then Alexander Kerfoot comes in, who has killed the Canadiens so far in this series? It's not Austin Matthews. Austin Matthews has been generally held in check. You know, I mean, to limit him to 3 points in four games, I'd say mission accomplished on that front.
Yeah.
You know?
Yeah.
But, you know, having William Nylander and Alex Kerfoot leading their team, leading the Maple Leafs in scoring with 5 points apiece, just, it's like everything, you know, the Leafs entered this series with just a god-awful power play. What do the Canadiens do? They go out and they take like a steady stream of penalties in the second period of game two, and allow the Maple Leafs power play to be feeling good about themselves. Now, they haven't really you know, had a huge impact since then. But it's just, my point is that the Canadians keep facilitating the Maple Leafs to find solutions to their problems. In the sense that it's like, it's, and that's just an example of it. You know, I mean, imagine like right now, if this series were flipped in terms of who had three wins and who had one, can you imagine the heat Austin Matthews would be under in Toronto right now with 3 points in four games? He would be under siege. But the fact is the Leafs haven't needed him or Marner. They each have 3 points in four games, which for most players is fine, but for them, that's underperforming. And the Canadians have all these circumstances for them to have a chance in a series where they're heavily the heavy underdogs and have not even come close to seizing them. Like, they're just not, you know, earlier when I said this should have been the best version of themselves, this isn't even close to the best version of themselves. They're underperforming to a great level because they're not this bad of a team. And that's what everyone's going to say they are. They're not this bad of a group of players who have been put together, I should say, because they might actually be this bad of a team, but the talent on the ice doesn't necessarily equate to how this team has played in this series so far.
Tonight, they got beat by Alex Galchenyuk.
I know.
Imagine the irony in that.
Yeah, it's delicious. It's delicious, actually, I find. It's really quite... The only better thing would be if Alex Galchenyuk were chosen to play center instead of John Tavares, and that he beat them playing center. That would be the only better possible scenario for him. But unfortunately, that didn't happen. But I'm happy for Alex Galchenyuk. I'm glad. I hope things work out for him, generally speaking. I hope his career gets salvaged. Because he's a good hockey player, and he means well.
He's passionate about the game, and he works hard. He's a hard worker, people. When he was in Montreal, he used to... You know, he didn't always work well or work the right way, but I think that when you say well-intended, absolutely.
Yeah.
I think that he had his heart in the right place. He wanted to do well. He wanted to find ways, and it just didn't pan out for him, and neither here or in many other stops after that. But, I mean, the way that he played tonight, his pass... you know, on the Leafs' second goal was just amazing. So
and good for him. And that kind of, you know, drives the point home is that the Maple Leafs were wondering what they were going to do without John Tavares. They did not have a suitable replacement for him. He was vital to that second line being dangerous. How was William Nylander going to produce without John Tavares? This was the question after he went out. You know, aside from the obvious concern for his health from a hockey standpoint is how is William Nylander going to produce? Well, he scored in every game this series without John Tavares. So it's possible. And it's just that the Leafs' ability to play as a team offensively, they put pucks in areas where they know people are about to be, as opposed to the Canadians, who put pucks in areas where no one is and no one is close to being. Like, this is the difference between the two teams right now. There were numerous occasions in this game where the Canadians put a puck somewhere as they were trying to break up ice, and no one was even going in that direction. And it's just like, it really jumps out, I think, because, you know, let's be fair, that, you know, there were 2 1-goal games in this series, but, you know, to lose by 4 goals tonight and by 4 goals in game 2 is going to make it look a little more lopsided than maybe it is. But the fact is that the Canadians are unable to get from one end of the ice to the other.
I'll be honest with you. At some point in the third period, I really thought that Shea Weber was ready to make a D2D pass and the ref was on the other side, that he would pass the puck to the ref.
Yeah, well.
That thought crossed my mind.
Yeah, which says something. Listen,
it shouldn't happen.
We're going to switch over to French now because we've been doing these obviously live. Tonight's not live because of a bit of a snafu, but we're going to switch over to French and finish up here on game 4.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Okay. Alors, écoute. Carey Price, tu l'as mentionné en ouverture, il est non seulement il est irréprochable, mais en plus, depuis des années, il n'arrive pas à obtenir de support offensif. À ton avis, OK, admettons que le Canadien se fait éliminer là, dans les prochains jours, ce qui est la conclusion la plus probable. Est-ce que tu penses que c'est pour lui la goutte qui va faire déborder le vase?
Écoute, honnêtement, c'est possible. C'est difficile à dire, mais tu sais, je me mets juste à sa place, dans le fond. Tu sais, j'y pense, puis je suis comme... Moi, si j'étais lui, là, puis année après année, particulièrement après ce qu'il a dit hier soir, là, après le match, tu sais, il était demandé, es-tu frustré? Non, puis il était sincère. Honnêtement, c'est non seulement les mots, mais la façon qu'il le disait, et sincèrement, il croyait dans cette équipe-là, dans ses coéquipiers, leur capacité de marquer des buts. Mais, crime, ça fait année après année après année, à chaque fois qu'il rentre en série, son équipe n'est pas capable de marquer des buts pour lui. C'est le gardien avec le pire taux de buts marqués pour depuis 2015, au moins en série. Ouais. C'est pas mal moins que deux buts par match qu'il reçoit comme support, puis il donne à peu près deux buts par match depuis ce temps-là. Alors, tu sais, à sa place, j'ai de la misère à croire que... Tu sais, c'est combien d'années est-ce que je dois attendre que mon DG va être capable de bâtir une équipe devant moi qui a de l'allure, qui est capable de marquer à ce temps-ci de l'année? C'est une question qui serait parfaitement naturelle à demander. Tu sais, ce serait normal que Carey Price se demande cette question-là, rendu là. Mais encore une fois, ils ne sont pas éliminés. Mais ils ont marqué 4 buts en 4 matchs. Puis, tu sais, lui, il demeure le meilleur joueur de l'équipe dans la série à date. Et ça doit devenir un peu fatigant pour Carey Price, à mon avis.
C'est clair.
Ouais.
Écoute, en première période, Dominique Ducharme nous a un peu pris par surprise parce qu'il a décidé d'envoyer le trio de Jesperi Kotkaniemi avec Byron et Josh Anderson pour affronter le trio d'Austin Matthews. La manière que je l'ai interprété, c'est que il voulait remettre le trio de Dano ensemble, leur donner la chance de retrouver leur rythme un petit peu, parce que à la fois Tatar, Dano et Gallagher, chacun à leur façon se cherchent, et puis avoir trois joueurs qui se cherchent contre Austin Matthews, c'était peut-être pas la meilleure formule, mais il s'est viré de bord puis il a demandé à Kotkaniemi, Byron et Anderson d'être ceux qui allaient surveiller Austin Matthews. Disons qu'en première période, ils ont un petit peu joué avec le feu. Ça n'a pas trop bien été pour eux. Puis à partir de la deuxième, c'est davantage le trio de Dano qui a eu ces responsabilités-là. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là, toi?
C'était intéressant. En fait, moi, ce que je voulais voir, c'est ce que Josh Anderson aurait pu faire sans avoir cette tâche-là de couvrir, de jouer, d'affronter Austin Matthews et Mitch Marner pour qu'ils puissent produire de l'offensive. Honnêtement, Josh Anderson, il n'a pas fait grand-chose dans le match. Il n'est pas le seul. Mais tu sais, j'aurais aimé ça voir le gars qui a dit que l'équipe va sortir plus affamée ce soir. Il n'avait pas l'air lui-même plus affamé que plus tôt dans la série. Je pense que la façon que les affrontements peut-être n'ont pas joué un si grand rôle dans le manque de production de Anderson. Moi, je trouvais que le trio de Dano, ils ont connu des moments où il avait l'air d'être le vieux trio de Dano, la façon qui contrôlait la rondelle en zone offensive, il était capable d'entrer avec vitesse. Mais c'était des moments. C'était pas constant. Ouais. C'était ici et là. C'est pas un trio qui exerçait beaucoup de pression sur les Leafs et pas quelque chose qui avait besoin de que les Leafs avaient vraiment besoin de trop en penser là. C'est quand même un projet. S'il reste avec ce trio là, ça demeure un projet rendu là parce que il était pas très convaincant tout au long du match. Mais il y avait quelques moments où c'était comme, ah oui, c'est ça qui a l'air, c'est ça que ce trio-là, il a l'air de ça, normalement. Mais je pense que Dominique Ducharme aurait un intérêt à garder ce trio-là pour le match numéro 5. Parce que il faut en ce moment, il faut souhaiter qu'il trouve quelque chose, qu'il retrouve quelque chose, parce qu'il y a tellement des choses que le Canadien fait qui coule de là, qui coule du fait que ce trio de Dano est capable de contrôler la position, possession, de jouer en zone offensive et de créer, tu sais, des maux de tête pour les adversaires en termes de couverture défensive et tout ça. Mais les résultats sont pas là, mais je pense que Ducharme il n'a pas vraiment le choix que de le laisser ensemble en ce moment.
Non, c'est ça. Puis en plus, le Canadien est privé de joueurs, quand même d'assez bons joueurs défensifs en Evans et Lehkonen. Donc, là, en retournant à Toronto, il y a d'autant moins le choix d'espérer que le trio de Dano soit efficace contre Austin Matthews. Mais comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est pas Austin Matthews qui les bat en ce moment. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, s'ils arrivent à faire arme égale puis à finir kiff-kiff contre le trio de Matthews, ça va être correct. Mais il va falloir que d'autres personnes prennent le relais. Puis je trouve que, personnellement, j'aurais aimé mieux... On a vu dans le match d'hier... Une très bonne première période de la part du trio de Jesperi Kotkaniemi. Puis ce soir, Kotkaniemi, honnêtement, il m'a déçu. Et puis je pense que c'est dommage parce que le Canadien a besoin... Tu sais, c'est pas une équipe qui a réglé ses problèmes chroniques au centre, là. Ils ont peut-être plus de profondeur au centre, mais au niveau de talent de pointe, de talent élite, ils n'ont pas réglé ce problème-là. Et puis je pense que on peut encore espérer qu'il y ait du développement, qu'il y ait une maturation du côté de Suzuki et de Kotkaniemi. Ça, je comprends. Dans l'avenir, ça peut être encourageant. Mais on n'est pas encore au point où ces deux joueurs-là peuvent vraiment prendre le flambeau et dire « c'est nous qui allons diriger l'offensive ». Il y a des moments où Suzuki le fait, tant mieux. Mais Kotkaniemi, c'est tellement à taux variable que... Quand Dominique Ducharme parle de constance, c'est sûr que je pense qu'il souhaiterait pouvoir miser davantage sur Kotkaniemi. Je sais que quand j'envoie mon trio, son trio sur la glace, bien, il va se passer quelque chose en attaque. Sauf que c'est une présence sur 6 là, où ça se produit.
Oui. Oui, je trouve que souvent les mêmes. C'est comme. Parce que je pense que Nick Suzuki n'a pas connu un grand match ce soir non plus, mais c'est vu qu'il y avait des compagnons de trio qui ont le potentiel de marquer plus de buts, c'est lui qui a reçu beaucoup de glace en troisième période. Ça n'a jamais été question de que Nick Suzuki ne commence pas la série parce qu'il a terminé la saison en Lyon. Là. Il a connu une très bonne fin de saison, mais comme lui-même, il lui a dit, le moitié du milieu, middle half, comme il a dit... Oui. Il était pas très bon, tu sais, mais il a jamais eu les mêmes conséquences, dans le fond, que quand il allait un peu moins bien, tu sais, il y avait tout le temps des compagnons de trio qui étaient offensifs, il y avait tout le temps des situations offensives, alors, tu sais, il y a beaucoup question du développement de Jesperi Kotkaniemi depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale à l'âge de 18 ans. Là, il y a tout le monde qui questionne si c'était la bonne affaire, et moi, en fait, ce que je questionne plus que ça, c'est juste à quel point est-ce que les attentes que l'organisation place sur ce gars-là, est-ce qu'il le met dans une position pour qu'il puisse les atteindre? Et je suis pas certain qu'ils le font. C'est vrai que ce soir, comme beaucoup de gars, il était plus ou moins efficace, il était plus ou moins là. Mais il est quand même
employé comme un troisième centre là, tu sais, il est pas, je sais pas si les attentes, tu sais, c'est pas comme si, tu sais, peut-être qu'on pourrait lui donner encore des meilleurs outils, puis ou lui donner plus long de corde, lui donner autant de cordes qu'à Suzuki, mais je pense que c'est peut-être pas, j'ai l'impression que les attentes au contraire ont été drôlement réduites parce que on a beaucoup tardé à lui en donner davantage, puis on se dit ben là on va y aller un petit peu par un petit peu, puis ça, il est jamais sorti de sa chaise de troisième centre, sauf dans la bulle l'été dernier.
Oui, c'est ça, mais ce que je dis, c'est que si... Tu sais, c'était ma réaction à, au fait que tu dis que Jesperi Kotkaniemi t'a déçu ce soir. Tu sais, il a joué moins de 13 minutes. Suzuki a joué 20 minutes 30. Tu sais, il a quand même eu 5 tirs au but, il a fait des choses. Mais c'est pas... À mon avis, le gars qui est décevant ce soir, ce serait surtout Suzuki ou Dano ou quelqu'un qui est là pour effectivement mettre des points sur... Tu sais, mettre des points, puis si tu regardes le troisième centre, puis tu dis, waouh, c'était vraiment, vraiment décevant, je le vois pas au même niveau. Tu sais, le gars qui joue plus que 20 minutes, comme le seul attaquant qui joue plus que 20 minutes, puis termine à moins 2, puis il n'y a pas de points. Ben, évidemment, tout le monde n'avait pas de points. Mais ces deux gars-là, c'est clair que ça doit être 1 et 2 bientôt pour que le Canadien puisse avoir du succès en série ou juste en général. Et je suis d'accord avec toi que c'est pas clair quand ça va arriver, cette transition-là.
Non, c'est ça. Ben écoute, en troisième période, le Canadien a essayé de faire un push. Puis souvent, les choix, l'utilisation des joueurs en troisième période, Dominique Ducharme, d'après ce qu'il nous a dit auparavant, là, c'est beaucoup de dire, ben là, j'ai identifié que tel gars allait plus que tel gars. Puis tu regardes l'utilisation en troisième période, Suzuki a joué 4 minutes de plus que Kotkaniemi. Il a joué 8 minutes, l'autre en a joué 4. Donc, c'est, je pense qu'entre autres, c'est là que ça s'est joué. En terminant, on a eu une réflexion, toi et moi, sur la galerie de presse durant le match, en se disant, est-ce que c'est normal que ce soit Joel Edmondson, le meilleur défenseur de l'équipe à l'heure actuelle? Parce que, c'est, honnêtement, c'est le défenseur le plus régulier de l'équipe. Quand il est sur la glace, je ne crains pas qu'il y ait des erreurs ou des grosses bourdes, du moins pas venant de lui. Il prend de meilleures décisions avec la rondelle que plus tôt dans la saison. Quand il décide de tirer au filet, ses tirs sont convaincants. Donc, il est à peu près irréprochable. Ça a été beaucoup plus dangereux et périlleux pour son coéquipier Jeff Petrie ce soir. Mais en même temps, c'est pas normal qu'on regarde vers Edmondson et dise « Hey, c'est lui notre meilleur défenseur en ce moment. »
Ben, hein? je te dirais, c'est une grande partie de pourquoi le Canadien se retrouve dans la situation où il se retrouve. Parce que Joel Edmondson est clairement leur meilleur défenseur. C'est ça le problème. C'est pas normal que Joel Edmondson soit dans cette position-là. T'sais. Jeff Petrie a besoin d'être meilleur que Joel Edmondson. Honnêtement, je suis très impressionné avec la façon que Joel Edmondson joue. Je pense qu'il joue au-delà des attentes quand il était signé. Et en fait, c'est tellement au-delà des attentes. Tout le monde avait des attentes qu'il allait être pourri. C'est leur meilleur défenseur, puis c'est sans question en ce moment. Tu peux pas faire un argument autrement qu'en disant que Joel Edmondson, c'est le gars qui joue le mieux, et c'est depuis longtemps, et c'est de loin. Alors, ce que ça veut dire, c'est que t'as pas assez de Jeff Petrie, t'as pas assez de Shea Weber, t'as pas assez de Ben Chiarot, et sans ces trois-là, le top 4 du Canadien, c'est devenu une faiblesse. Dans le fond, c'était supposé être une force en entrant dans cette série-là, parce qu'ils sont basés sur la performance de Chiarot, Weber et Petrie en série l'année passée. Puis ils se sont dit, bon, on ajoute Edmondson à ces trois-là. Là, on a un top 4. Là, en série, on devrait être capable de vraiment jouer fort, physique, puis exercer le même style qu'on a fait dans le bulle l'année passée, sauf que non seulement avec trois défenseurs, mais quatre, on va être encore meilleur. Mais là, c'est Edmondson, c'est le seul qui joue là, de ces quatre-là. Les autres, les trois autres, ils performent pas. Alors, c'est vrai que Joel Edmondson, c'est le meilleur défenseur du Canadien en ce moment, mais c'est une grande partie de la problème du Canadien en ce moment que ça soit vrai, c'est un fait que Joel Edmondson, c'est leur meilleur défenseur.
Mais tu sais, je pense que Dominique Ducharme a sorti une grande vérité qui est un paradoxe au sein de l'organisation en ce moment. L'autre jour, il a dit... Il parlait de Kotkaniemi avant le début de la série, puis il dit faut pas oublier que la bulle l'année dernière, c'est un contexte particulier. Puis c'était pas le même genre de hockey que ce qui joue normalement dans des séries éliminatoires dans une année normale. Et c'est absolument vrai. Et puis l'évaluation ou les conclusions qu'a tiré Marc Bergevin à propos de cette équipe-là, à la base, je pense qu'elles étaient erronées. parce que il a mis énormément dans le panier de cette il a tiré beaucoup de conclusions du rendement de cette équipe-là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la bulle. C'est pas juste c'est pas seulement la COVID qui a créé la bulle, mais c'est comme une bulle technologique ou une bulle financière. C'est une espèce de cocon qui est. Je pense qu'à l'extérieur de ce cocon-là, le Canadien est une autre équipe. Et c'est ce qu'on a vu durant la saison régulière, ce qu'on voit encore cette année.
J'entends ça souvent, puis je me demande qu'est-ce que Marc Bergevin a fait en faisant cette évaluation-là. Qu'est-ce qu'il aurait dû pas faire dans sa saison morte? T'sais, est-ce qu'il aurait pas dû aller chercher Jake Allen? Est-ce qu'il aurait pas dû aller chercher Edmonton? Tous les joueurs qu'il est allé chercher, peu importe ce qu'ils ont fait dans le bulle, c'était des bonnes décisions, là. Tout le monde, il n'y a personne qui peut dire que Toffoli, c'était pas une bonne décision. Avoir Anderson pour Domi, tous ces joueurs-là, Corey Perry même, c'est vraiment, tu sais, rendu aux dates limites des transactions où peut-être il y en a un peu mis trop, puis il a mis l'équipe dans le pétrin en faisant quelques transactions qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, puis l'évaluation des joueurs n'a pas tout à fait été à point non plus. Je pense que les critiques pour John Merrill en ce moment sont un peu exagérées. Je pense qu'il joue son rôle, puis il le fait bien, puis je sais que tout le monde veut voir Alexander Romanov, mais c'est pas la faute de John Merrill qui joue, là. Il joue pas mauvais. Il joue pas super bien.
Il joue John Merrill.
Il joue John Merrill. Il est là. Puis la plupart du temps, dans un match, tu l'aperçois pas. Ce soir, je pense qu'il a littéralement, il a sauvé deux buts plus ou moins certains des Maple Leafs à cause des bons replis défensifs. Mais mon point, c'est que j'ai entendu ce que tu viens de dire souvent cette saison. Pourquoi Marc Bergevin a mal évalué la performance dans la bulle, et je suis d'accord. Il en a mis trop après. Il a dit « Ah, ben on est prêt, on peut bâtir autour de Kotkaniemi et Suzuki, on est prêt à prendre un step, tout ça. » Oui, peut-être que c'était pas vrai. Sauf que toutes les décisions qui ont suivi ça, je l'aurais quand même fait quand même. Là. Il y avait une opportunité dans la saison morte, il y avait de l'argent sous le plafond, personne n'avait de l'argent à dépenser. Il est capable de signer Toffoli à une aubaine, il est capable d'avoir Anderson signé à long terme. Ce sont des bons joueurs là, qui se sont ajoutés aux Canadiens en résultat, qui étaient résultat direct de cette mauvaise évaluation de Marc Bergevin et de son équipe dans le but.
Oui, là-dessus, je suis d'accord. C'est pris isolément, individuellement, chacun de ces gestes-là se vaut. Mais c'est juste que ma préoccupation, c'est au niveau de l'évaluation. C'est-à-dire que si c'est l'évaluation que tu fais de ton équipe, est-ce que le big picture que tu gardes au quotidien est le bon? T'sais? Et à ce moment-là, ça a été toutes des améliorations. T'sais, je ne veux pas nécessairement trop retourner en arrière puis regarder bon, chaque joueur qui était disponible durant la saison morte l'été passé, mais c'est même si tous ces joueurs-là qui ont été amenés ont amélioré l'équipe, est-ce que c'était là, c'était dans ces facettes du jeu-là où le Canadien avait le plus besoin de s'améliorer? Est-ce que, par exemple, trouver plus d'aide au centre aurait été encore plus préférable? Je sais pas. Écoute, je sais pas. Je ne me mettrai pas à faire le procès de Marc Bergevin sans y avoir réfléchi davantage. Mais je pense que c'est. Je suis juste un peu préoccupé par l'évaluation qui a été faite à ce moment-là. Puis de dire, ben, peut-être que l'enthousiasme, est-ce que les partisans, puis les médias également, sont pas tombés dans le panneau pour la même raison après coup, t'sais. Enfin, écoute, là-dessus, on va aller écrire, nous autres?
Oui, oui, il faut écrire, puis c'est ça, on se verra, on va voir ce qu'on va faire après le match 5, mais en principe, on devrait être capable de revenir live sur YouTube, puis on verra si c'est le dernier match de la saison du Canadien. Alors, si tu penses que ce podcast-là était le post-mortem de la saison du Canadien, vous vous trompez, parce qu'il en reste un post-mortem à un moment donné. Sauf si le Canadien est capable de faire en sorte qu'ils vont éviter ça, puis faire la surprise à tout le monde, ce qui est possible. Écoute, je vais le dire, je vais le répéter, je suis de l'avis que cette équipe-là est meilleure que ce qu'on a vu dans la série à date, mais il va falloir que quelque chose change, que quelque chose de drastique change entre là et jeudi, que cette équipe-là apprend dans 48 heures comment jouer comme équipe Et laisse-moi en douter qu'ils seront capables de faire en 48 heures qu'ils n'ont pas pu faire en 2 mois. Alors, on verra.
Exact. All right. Ben, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Et puis, on se reparle donc après-demain. Alors, merci beaucoup, Arpen.
OK. Salut.
Bonne soirée, tout le monde. Bye-bye.